VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Tchad, report des élections législatives initialement prévues en novembre. Le cadre national de dialogue politique veut renvoyer les échéances à la mi-2019. Éric Manirakiza.
Plusieurs motifs sont avancés. D'abord, la mise en place du code électoral et de la commission électorale nationale indépendante. Ensuite, un recensement électoral qui tienne compte du nouveau découpage administratif. Abdraman Jansbaï, membre du CNDP, a déclaré que le chronogramme sera examiné et éventuellement adopté vendredi. En revanche, un membre du gouvernement a confié hier, sous couvert d'anonymat, ne pas être certain de la tenue du scrutin en 2019 en invoquant la crise financière et le nord du pays en proie à des attaques djihadistes. Le CNDP réfléchit et discute des affaires politiques tchadiennes. Composé de 15 membres de la majorité et 15 de l'opposition, il doit notamment mettre en place la commission électorale indépendante CENI. Les dernières législatives datent de 2011. Depuis, le scrutin a été repoussé à plusieurs reprises. La troisième législature devait se terminer le 21 juin 2015, mais une loi constitutionnelle l'avait prolongée.
Politique en République démocratique du Congo, revenons sur la volte-face des deux ténors de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, et aussi de leur parti. Moins de 24 heures après le choix de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en RDC. Que reste-t-il de la coalition de l'opposition Lamuka, le réveil en Lingala et Swahili, mise sur pied à l'occasion de la désignation du candidat commun dimanche à Genève en Suisse? Et surtout, l'opposition éclatée est-elle prête à moins de 10 jours du début de la campagne électorale en RDC? Quelques éléments de réponse dans ce dossier préparé par Eddy Sango.
Pour Félix Tshisekedi, les premiers à annoncer hier, soit moins de 24 heures après, les retraits de sa signature du document désignant Fayulu, la base de son parti, a eu les derniers mots. Félix Tshisekedi.
Malheureusement, dans le rendu que j'ai fait à la base, il y a eu une réaction immédiate et sans équivoque de cette base qui m'a fait comprendre qu'elle avait rejeté avec force les conclusions des travaux de Genève. Et donc, il était tout à fait responsable de sa visée, d'en tirer toutes les conséquences. Parce que vous savez, nous sommes à quelques jours du début de la campagne électorale et cette ambiance qui prévalait au sein du parti était très très mauvaise. Dans la mesure où il était question évidemment de reporter nos voix sur la personne du candidat commun. Mais là, on m'a fait comprendre très clairement que cela n'allait pas être possible. La base a émis le vœu de me voir continuer avec ma candidature, ce que donc j'ai fait avec fierté.
Un complot de ses pairs et une violation des accords précédents dénonce de son côté Vital Kamerhe. Il parle des rapports de force à tenir en compte. Vital Kamerhe.
Nous n'avons pas compris quand les amis ont inventé le mode de désignation des candidats commis par vote. Donc ils ont d'abord violé l'accord que nous avons tous signé, l'accord de Pretoria. Alors donc il y avait un coup fourré qui s'est préparé. J'ai dit à Félix, mon cher ami, avant de monter dans les bus, les amis nous préparent un coup fourré là-bas. Il m'a dit non, alors qu'à ce moment-là, quelqu'un, Mouzito, je crois, l'avait appelé pour dit non, Vital prépare quelque chose contre toi avec Bemba. Très bien. Félix a cru à ça. Il descend en bas, Fayulu le prend en charge. Il dit non, Vital, Bemba et Katumbi préparent quelque chose contre toi. Et mon ami ne me parlait plus. Nous entrons dans la salle. Moi aussi, j'étais convaincu. Il y avait quelque chose entre Félix et les autres contre moi. Ce qui fait que moi, j'ai voté pour Matungulu et Félix a voté pour Fayulu. Et nous sommes retrouvés chacun avec une voix. Et Matungulu et Fayulu sont passés au premier tour parce qu'ils ont été malicieux. Et ça, c'est mauvais en politique.
Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, comme ceux qui sont restés dans la coalition Lamuka, se disent malgré tout convaincus de remporter les élections, bien que divisés. C'est l'avis de Freddy Matungulu.
Monsieur Ramazani Shadari, c'est le représentant de tout l'échec patent de la politique de Monsieur Kabila ici en République démocratique du Congo. Nous aurions souhaité évidemment que l'opposition reste unie, mais je crois que même dans sa configuration actuelle, avec les acteurs ou les signataires de l'accord, l'opposition doit pouvoir être à mesure de gagner l'élection.
Cette confusion prend place au sein de l'opposition à moins de 10 jours du début de la campagne des élections prévues le 23 décembre 2018.
Politique au Gabon maintenant, l'Union nationale UN, l'un des principaux partis d'opposition du pays, a dénoncé ce mardi ce qu'il appelle un mensonge d'État. Après la déclaration de la présidence gabonaise à Libreville sur l'état de santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad, en Arabie Saoudite. Dimanche, le porte-parole de la présidence gabonaise, Iken Gouoni, citant ce qu'il a qualifié de dernier bulletin médical, a affirmé que le président Bongo était en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques après avoir reçu des soins de support appropriés et approfondis. Réaction de l'UN, l'Union nationale, il faut que le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngonze, accompagné d'une délégation représentant la nation, aille à Riyad dans les meilleurs délais pour y rencontrer le chef de l'État, les autorités saoudiennes et les médecins. L'Union nationale estime que l'équipe médicale de l'hôpital de Riyad a communiqué des bulletins de santé du président Ali Bongo Ondimba dont seule la présidence gabonaise a connaissance. Une politique attentatoire au bon fonctionnement de l'État, affirme l'Union nationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, maintenant au Mali, la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue allemande de la Défense Ursula von der Leyen, en visite ce mardi auprès des troupes allemandes et françaises à Gao, ont dénoncé l'attentat suicide qui a fait 3 morts et des blessés la veille dans la métropole du nord du Mali. Cet attentat à la voiture piégée a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Dans son communiqué, le groupe dit avoir ciblé un site regroupant des forces britanniques, allemandes et canadiennes dans le centre-ville de Gao. 3 civils maliens ont été tués et 4 étrangers blessés, rappelons-le. Afrique de l'Ouest, toujours au Burkina Faso, l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015, le colonel Bourema Kéré, a dénoncé lundi à la barre le manque de fermeté de la hiérarchie militaire lors des faits, accusant ses supérieurs d'avoir accompagné le mouvement, dit-il. Poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre et coups et blessures volontaires, le colonel Kéré, chef d'état-major particulier auprès de la présidence, a nié les faits devant le tribunal à Ouagadougou. Même si l'armée n'a pas assumé le coup d'État, a-t-il déclaré, elle a accompagné le mouvement du général Diendéré. Rappelons que le général Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État, est l'ancien chef du régiment de sécurité présidentielle RSP, l'unité putschiste. La lutte contre l'impunité en Afrique maintenant, au Libéria, à l'initiative de l'organisation Campaigners Victims for Justice, la campagne pour la justice, de nombreux manifestants ont défilé lundi à Monrovia, paralysant la circulation dans la capitale. Les seigneurs de guerre et les criminels économiques doivent faire face à la justice, pouvait-on lire sur certaines de leurs pancartes. Le point avec Lionel Gaïma.
À l'initiative de Campaigners and Victims for Justice, ils étaient environ 2000 à marcher lundi à Monrovia, paralysant la circulation dans la capitale libérienne. Les seigneurs de guerre et les criminels économiques doivent faire face à la justice, pouvait-on lire sur certaines de leurs pancartes. La guerre civile libérienne a fait quelque 250 000 morts et les manifestants sont particulièrement ulcérés que des personnalités impliquées dans ce bain de sang continuent d'occuper d'importants postes politiques et économiques. La marche de lundi a conduit les protestataires tour à tour à l'ambassade des États-Unis, au quartier général de l'ONU, au bureau de l'Union européenne et de l'Union africaine. Ils ont déposé une motion à la représentation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'un des chefs de guerre libériens, l'ancien président libérien Charles Taylor, a été condamné en 2012 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Sierra Leone, mais n'avait pas été poursuivi pour ses actes de violence dans son propre pays.
Crise libyenne pour terminer. Les principaux acteurs de la crise se sont retrouvés aujourd'hui en marge de la conférence sur la Libye à Palerme, en Sicile, boudée par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Monsieur Haftar, accueilli lundi soir par le président du conseil italien Giuseppe Conte, avait refusé de participer au dîner avant de faire savoir qu'il ne participerait pas non plus à la session plénière de cette conférence qui devait s'ouvrir en principe vers 10h temps universel. Dans son entourage, on explique que le maréchal libyen qui a fait de l'extrémisme islamiste Sa Bête Noire refuse de s'asseoir avec certains des participants à la conférence qu'il juge proche de cette mouvance. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. No time,